Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Si vous connaissez un comédien ou une comédienne qui va jouer le jour même, le soir même ou le lendemain, vous pouvez en toute confiance lui dire « merde ». Oh, non pas parce que les comédiens sont plus grossiers que les autres, non pas du tout. Merde, c'est pour porter chance. Pourquoi ce mot est utilisé pour porter chance? Parce que ça remonte au temps où les spectateurs venaient au théâtre en calèche ou dans un autre véhicule tiré par des chevaux, et comme bien entendu les chevaux n'avaient pas le droit d'entrer dans la salle, ils attendaient à l'extérieur que leur maître revienne. Donc le lendemain, à la quantité de crottins qu'il fallait enlevé devant le théâtre, envoyé si la pièce avait eu du succès ou pas. Une petite précision. Si vous dites merde à un comédien ou à une comédienne, surtout, il ou elle ne doit pas vous remercier, car cela romprait le charme. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un dramaturge qui a un don remarquable pour pratiquer l'ambiguïté. Je veux parler de Henri de Monterland. Henri de Monterland est né en 1895. Il a écrit quelques pièces qui sont entrées au répertoire de la Comédie française et qui sont régulièrement jouées d'ailleurs. La Reine morte, Le Maître Santiago, Port-Royal. Et je voudrais aujourd'hui évoquer une pièce qu'on a moins jouée depuis qu'elle a été créée en 1943, Fils de personne. Fils de personne, il y a trois personnages. Il y a Marie, il y a Georges et il y a leur enfant, Gilles, dit Giou. Le père, lorsqu'il a appris que sa maîtresse était enceinte, lui a versé une certaine somme d'argent et s'est plus occupé de son fils jusqu'au jour où il a, par hasard à Paris, rencontré la mère et son fils. Voici la première scène de la pièce. Marie. Mon ami, excusez-moi de n'avoir pas été vous chercher à la gare, j'ai une migraine. Ce climat de Cannes ne me vaut rien. Georges, vous vous plaignez par ce temps merveilleux. On croirait la canicule et dans 8 jours, c'est la Toussaint. Marie, la Côte d'Azur est traite, ses rues, où s'engouffre le vent de mer et les couchers de soleil. Georges, je vois que j'ai très mal agi en vous faisant venir à Cannes. Et qu'à Angoulême, cet été, couchant par terre sur un matelas dans l'école communale parmi les hordes de l'Exode, ah, on s'en souviendra de l'été 1940, vous étiez mieux qu'ici. Rappelons que la pièce a été créée en 1943. Marie. Ne dites pas de bêtises, mais je reconnais que la Côte d'Azur ne me fait peur. Vous avez bien trouvé J.U. à la gare. Comment n'est-il pas avec vous? Georges, il y avait, je ne sais quel gandin de cinéma qui est arrivé par ce train et il est resté à le boire des yeux la bouche ouverte. Pourvu qu'on ait un complet mode ou seulement un foulard rose au tendre, on est un dieu pour J.U. Ma foi, il m'a gassé, je l'ai laissé. Je pense qu'il va être ici dans un instant. Rien de nouveau à Marseille? De plus en plus de travail. Ce n'est pas que mes confrères marseillais voient, je crois, d'un très bon œil un avocat connu du barreau de Paris venir s'installer parmi eux, mais les circonstances de cette sorte d'exil auquel je suis forcé pour la durée de la guerre, le fait que je sois un prisonnier évadé, me crée ici des sympathies. D'ailleurs, sympathies ou non, ça pèse les sympathies qu'on reçoit et ça prend du temps, plus que les haines. Marie, mademoiselle Janine va bien ? Georges, mademoiselle Janine sera aux anges quand elle saura comment vous intéresser à sa santé, elle va bien. Ce n'est pas elle plutôt que le procureur qui vous a retenu à Marseille cet après-midi ? Pensez que vous consacrez à votre fils. Ne parlons pas de moi, je ne compte pas. Un jour et demi par semaine, que vous parvenez à rogner sur ce pauvre jour et demi, arrivez ici après de 10 heures du soir. Cher ami, faut-il vous rappeler que nos conventions ne vous permettent pas de me faire des scènes de jalousie ? Ce n'est pas pour moi que je réclame, c'est pour votre fils. Voilà qui est un peu fort. Je vous installe tous deux à Marseille, où je suis obligé de résider à cause de mes affaires. Là-dessus, vous déclarez, après 8 jours, que cette ville vous est intolérable. Alors je vous installe ici, où je ne puis que passer le week-end. Et c'est vous qui me reprochez de délaisser mon fils. Il y a un fait, je ne puis vivre à Marseille. Ce bruit, cette poussière, puis ce mistral, oh, ce mistral. Si j'étais resté à Marseille, je vous le dis sans plaisanterie ni exagération, après 6 semaines, j'aurais dû entrer dans une clinique pour maladie nerveuse. Il y a un autre fait, vous vivant à Marseille, nous deux, autre part, vous ne pouvez plus guère voir le petit. Et alors, je me demande si toute notre organisation actuelle, qui avait pour but de le rapprocher de vous, n'a pas perdu sa raison d'être. Où voulez-vous en venir ? Parfois, je me demande s'il ne vaudrait pas autant que moi et J.U., vous rentriez à Paris, c'est ça ? J.U. à Paris, moi ici, cela durant des années peut-être, puisque comme prisonnier évadé, il m'est impossible de rentrer en s'en occuper avant la fin de la guerre. Et ce serait pour cela, tout ce que j'ai fait, dit, souffert, rêvé, espéré, combiné depuis 4 mois. Voilà donc ce que je suis pour lui, pour vous. Après ces 2 ans de mon affection et de ma sollicitude sans reproche. Écoutez, Marie, vous me stupéfiez, vous me consternez. Est-ce un projet, une simple lubie ? Mettons un désir, mais raisonnable, je crois. Et le petit ? Vous vouliez parler de ce désir ? Oui, comme ça. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Oh, il lit tantôt ceci, tantôt cela. Au fond, ça lui est égal. C'est ainsi qu'on apprend dès la première scène que Georges, en réalité, a été fait prisonnier de guerre, il s'est évadé, et en rentrant dans le sud de la France, il a essayé de savoir ce qu'était devenu son fils et la mère de son fils, et est arrivé à les récupérer dans un foyer pour réfugiés. Nous arrivons à une autre scène entre Georges, le père, et J.U., le fils. Georges, je ne peux pas te parler sérieusement quand ta mère est là et je voudrais te parler sérieusement. Oui, mais ne sois pas trop long parce que demain, j'ai l'école à 8 heures, il faut que je me couche tôt. L'école ? Le dimanche ? Ah oui, c'est dimanche. Alors c'est vrai, tu veux rentrer à Paris ? Mais non, je ne veux pas, c'est maman qui dit ça. Enfin, à elle, tu dis que tu veux rentrer à Paris, à moi que tu ne veux pas. Complice avec moi contre ta mère, complice avec ta mère contre moi. Oh, moi, Paris ou Cannes, je m'en fiche. À Paris, j'ai mes copains, ici, il y a le soleil, alors l'un ou l'autre. Il y a longtemps que ta mère s'est mise dans la tête de ce retour à Paris. Elle a commencé à m'en parler il y a 3 ou 4 jours. Rentrer dans le Paris de l'armistice, au début de l'hiver, dans le Paris du froid sans chauffage, des restrictions, de l'occupation, des bombardements peut-être, quand on peut vivre tranquille à Cannes. Mais toi, en toute sincérité, qu'est-ce que tu désires ? Oh, moi, tu comprends bien que je voudrais rester avec toi seulement si maman. Et si ta mère insistait pour retourner à Paris? Ne voudrais-tu pas revenir vivre à Marseille avec moi? Toutes les fois que tu restes quelque temps sans voir ta mère, tu t'améliores. Et mes études? Je ne vais pas changer de boîte tous les mois quand même. Et en juin, Janson, en octobre, 8 jours ici de Marseille. Ensuite, l'école d'Olivieri à Cannes. En novembre, retour à Marseille. Tu as l'air cependant d'accepter assez aisément d'être de nouveau en novembre à Janson. Là, il faut bien. Je ne peux pas abandonner maman, c'est ma mère. Mais moi, tu peux m'abandonner, oui. Je comprends. Et c'est l'introduction du personnage de Gius, cet enfant qui est ballotté entre un père et une mère qui n'ont plus rien en commun, sinon lui peut-être, et qui essaie chacun, consciemment ou non, de le ramener à soi, va continuer à naviguer pendant toute la pièce entre ses deux parents. Nous arrivons à présent à l'acte 2, toujours avec le même problème, à savoir que la mère a décidé, pourquoi on ne sait pas trop, a décidé de rentrer à Paris. En réalité, on apprendra plus tard la raison, enfin on apprendra par allusion la raison de son choix. Georges à Marie. Votre fils désire rentrer avec vous à Paris. Vous pourrez donc, si vous semble, prendre le premier train de réfugiés qui partira. J'assurerai votre existence à Paris dans les mêmes conditions où je faisais à Cannes. Et nous allons laisser nos personnages le temps d'une petite pause musicale. Je vous parlais au début de l'ambiguïté de Monterland et ses personnages, notamment dans Fils de personne, ont ceci de particulier que on ne sait pas trop s'il faut les prendre pour des êtres supérieurs comme Georges ou pour des sinistres imbéciles, toujours comme Georges. Et parfois, si on relit la pièce, au bout de quelques années, disons, on change complètement d'avis sur les personnages. Et Gillou essaie de manœuvrer entre les deux et voici ce qu'il dit. Ce que tu es bête de ne pas te remettre avec maman. Je suis sûr qu'elle en serait contente. Georges. Mon vieux, là, tu parles d'une question que tu ne connais pas. Il y a un immense intérêt dans mettre chaud de la vie à ce que ces choses soient sélectionnées nettement et sans bavure. Mes rapports actuels avec ta mère ont été décidés entre nous il y a 2 ans. Sans difficulté. Supposez qu'ils aient quelques inconvénients, s'ils étaient autres, ce ne sont pas des inconvénients, ce sont des drames qu'ils créeraient. Il peut sembler étrange que je sois avec elle comme je le suis, en fait, j'agis avec une extrême sagesse. Tu pourrais au moins être plus gentil avec elle. Quand tu m'as écrit de Marseille l'autre jour pour l'explication de ma version latine, tu n'as pas mis d'amitié pour elle dans la lettre. Elle l'a lue et a été vexée. Je ne vois pas pourquoi ta mère lit les lettres que je t'écris. Elle les lit toujours. Elle se vexe à cause d'une pareille bêtise. Elle s'est vexée aussi parce que tu ne lui avais pas écrit à elle. Je t'écrivais pour un objet déterminé, ton devoir de latin, elle. Je n'avais pas de raison particulière de lui écrire. Oui, mais en ce moment, si elle est malade, elle a besoin de petites choses qui lui fassent plaisir. Georges, ne nous étendons pas trop sur la maladie de ta mère. La mienne m'a raconté que lorsqu'elle était petite, il lui arrivait de se mettre des bandages à une jambe sans être le moins du monde blessée pour se rendre intéressante et se faire plaindre. Ta mère s'ennuie à Cannes, rêve de Paris, c'est là sa maladie. Elle dit qu'elle est déçue. Les gens qui sont déçus méritent toujours de l'être. Tu ne vois pas qu'elle est malheureuse ? Je ne vois pas qu'elle est malheureuse parce que je ne veux pas le voir. Être malheureux, c'est se croire malheureux. Ces fantômes de chagrin ne valent pas le respect. Et puis, qu'elle souffre donc un peu, la douleur est plus apaisante que la joie. Elle et moi sommes de vrais bons amis, rien de grave ne nous sépare. Par moments, elle m'en veut un peu de t'aimer et que tu me le rendes. Il arrive, quand tu m'embrasses en sa présence, que je crois sentir en elle un frémissement. On dirait que je n'ai pas le droit de recevoir ses baisers. Et moi, par moments, je lui avoue un peu que tu l'aimes, mais au fond, je lui suis reconnaissant de t'avoir aimé et bien aimé, comme elle est contente, elle aussi, j'en suis sûr, qu'il y ait un homme qui t'aime et qui, justement, se trouve être ton père. Si encore tu vivais avec nous, mais elle n'a personne avec qui causer. Au Havre, elle aurait mes grands-parents, au Havre, sous les bombes d'avion avec les Anglais toujours prêts à débarquer. Et puis au Havre, la vie est bon marché. On comprend que, en réalité, Marie, ne pouvant se résoudre à partir à Paris, a trouvé une nouvelle porte de sortie en voulant aller au Havre. En réalité, on sait par une carte que J.U. a lue qu'au Havre, quelqu'un d'autre l'attend que ses parents à elle, les grands-parents. Et Georges et Marie, Georges, il paraît qu'il y a une unité du Havre qui flotte dans l'air, mais je serai très ferme là-dessus. Paris a encore à la rigueur, mais le Havre avec les avions, les risques de débarquement, la situation sanitaire. Je suis constamment en rapport avec l'agence Havas de Marseille, je sais qu'il est question d'évacuer des enfants des ports de l'Ouest. C'est entendu, je ne suis père que depuis 2 ans, mais maintenant je le sais, j'ai le devoir et le droit de protéger mon fils. Contre qui que ce soit, fût-ce contre vous. Alors, vous disposez de nous. À cause de votre situation sociale, oui. Je dispose de vous à cause de ma situation sociale, à cause de mon argent même. Pourquoi ne le dites-vous pas, vous le pensez? Vous m'avez donné un pouvoir sur vie. Vous me l'avez même donné dans les formes, puisque vous m'avez signé une délégation de puissance paternelle sur J.U. Vous m'avez donné un pouvoir, j'en use. Ne revenez pas sur ce sujet, si vous êtes capable de parler d'autre chose en ce moment en causant tranquillement, sinon retournez dans votre chambre. C'est ce qui sera le mieux. En réalité, comme on va voir, Marie va retenter de convaincre Georges de les laisser partir au Havre, et finalement, Georges va abdiquer. Je vous propose une seconde pause musicale. Nous arrivons à présent à la scène pivot de la pièce. C'est Georges qui s'adresse à son fils, Jiyu. Depuis 3 mois que vous êtes à Cannes, je te le dis, je n'ai pas eu de bonheur de toi. Tu n'es pas comme tu devrais être, de sorte qu'à mon tour, je ne suis pas comme je devrais être avec toi, je le sais. Je devrais t'aimer davantage, mais comment, tandis que je te vois si indigne, t'aimer davantage quelquefois, je le crois possible, il y a comme de faux départs, et puis je ne peux pas. Alors je t'évite pour n'avoir pas à te montrer une froideur qui t'étonne. Et je suis triste. Triste que tu sois ce que tu es. Triste de ne t'aimer plus autant que naguère. Triste de sentir que je retourne un peu contre moi tout ce que j'ai fait pour toi avec tant de ferveur inutile. Je me rappelle ce dimanche d'avril dernier pendant ma dernière permission, ce dimanche de beau soleil où nous avons été sur les quais de chercher des livres. Quelle légèreté, quelle jeunesse, quelle certitude de ne jamais mourir. Comme j'étais content que tu sois à moi, beaucoup de vie a coulé depuis lors. Tu es passé du domaine merveilleux de ceux en qui j'ai toute confiance au domaine si banal de ceux dont je me méfie un peu. C'est dur de te dire cela, mais je te le dis. Maintenant, je vois bien de choses. Je vois pourquoi tu as pleuré quand tu as appris que j'étais ton père. Je vois pourquoi tu avais un visage si poignant quand tu t'es endormi sur ce canapé il y a 3 mois, parce que je vois ce qui sera plus tard, parce que je vois devant moi plus tard, aussi précis que si c'était du passé, tout ce que je ne ferais pas pour toi. Qu'est-ce que tu es au fond? Tu es un enfant abandonné, c'est là ton destin d'ailleurs. La plupart des enfants en France sont des enfants abandonnés. Ou bien on ne s'occupe pas d'eux, ou bien on s'occupe d'eux si mal, ou bien on s'occupe d'eux pendant quelque temps avec intelligence et ensuite on les abandonne. Mais toi alors, je t'ai abandonné une première fois à ta naissance par égoïsme. Je t'abandonnerai une seconde par désespoir de toi. Hélas, je t'abandonne déjà. Quand tu as dit hier soir de toi-même qu'en août, tu ferais des devoirs de vacances, que tu achèterais le corrigé. Ensuite, je t'ai senti si seul. Ta bonne volonté si seule, j'en ai eu le cœur serré. Oui, quand tu commenceras d'être grand, je t'abandonnerai encore. Je vois tellement comment cela se passera. Je remettrai de jour en jour de m'occuper de ton avenir. Je te laisserai penser n'importe quoi, faire n'importe quoi, fréquenter n'importe qui, aller avec n'importe quelle femme, tout au hasard, au lieu de te diriger. Toujours plaisantant avec toi, car lorsqu'on n'a rien à dire aux êtres, la plaisanterie occupe et déguise l'indifférence. Et toujours te donnant de l'argent pour me croire en paix avec mes devoirs envers toi. Bref, je serai un père comme les autres, alors que je n'ai voulu redevenir père que pour être un père différent des autres. Mais pourquoi un père comme les autres? Parce que tu aurais été un enfant comme les autres, au lieu d'être supérieur aux autres. Et tu te demanderas toujours pourquoi je t'ai rejeté, puisque les raisons que je t'en donne, tu ne les comprends pas. Et tu resteras ma tristesse et mon reproche. Un de ces visages de noyé qui nous regarde éternellement du fond de l'eau. Gilles, mon petit fée, que je puisse t'aimer, mais si du tien, moins que ce soit peut-être qu'il soit fautif, si d'abord je t'avais aimé davantage, peut-être qu'à force d'affection, j'aurais su tirer quelque chose de tout ce qu'il y a en toi, d'en barbouiller, de barbare. Il réalise que J.U. est en train de lire une revue. Ah! Tu disais, tu n'as pas pu m'écouter 5 minutes, quand jamais peut-être de ma vie je ne t'ai parlé si gravement. Eh bien, mon ami, voilà qui simplifie les choses. Dès lundi à Marseille, je commence les démarches pour votre laissez-passer. Quand je l'aurai, je vous le donnerai ou non, sinon ce que je penserai de toi à ce moment. Et c'est ainsi que Georges laisse J.U. et Marie partir pour le Havre, tout en sachant parfaitement qu'il ne les reverra jamais, ni l'un, ni l'autre. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Thank you.